France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, aujourd'hui deuxième opus de la mémoire retrouvée de Pierre Boulez que Jean-Pierre Derrien recevait à son micro pour évoquer le compositeur Igor Stravinsky. Pierre Boulez évoque sa rencontre avec Igor Stravinsky qui lui fut présentée à New York le 25 décembre 1952.
Mémoire retrouvée, aujourd'hui Pierre Boulez évoque ses rencontres avec l'homme Igor Stravinsky après avoir évoqué hier ses rencontres avec la musique d'Igor Stravinsky.
Thank you. J'ai vu Stravinsky pour la première fois diriger en 1952. Il est venu à Paris pour la première fois depuis la guerre. C'était à l'occasion du Congrès pour la culture qu'avait organisé Nicolas Nabokov. Et il avait donc invité Stravinsky à venir diriger un concert. Il y avait deux manifestations. Il y avait un Oedipus Rex dans une mise en scène de Cocteau que je ne décrirai pas, c'est pas la peine, qui n'avait pas eu le don de beaucoup plaire à Stravinsky non plus. Et puis il avait dirigé un concert dont je me souviens plus exactement le contenu total, mais où il y avait en tout cas le Capriccio pour piano et orchestre joué par Monique Haas. Et ça, c'est la première fois où j'ai vu Stravinsky diriger, où je l'ai vu en chair et en os, si je peux dire, mais je ne l'ai pas du tout contacté à cette époque-là. Il avait dû apprendre mon nom, je ne sais pas comment, mais je suis allé à New York après avec les Barreaux en 1952, en novembre 52. Et je suis resté jusqu'en décembre, fin décembre. Et le jour de Noël, 25 décembre, Virgil Thompson, qui est un compositeur critique, redouté, qui habitait à New York, donc, et que j'avais connu, moi, à Paris, à travers Roger Desormières, m'a invité à une réception de Noël. Et il avait invité Stravinsky à dîner. Moi, j'étais invité après le dîner. C'était dans la grande tradition proustienne, si je peux dire. Mais quand je suis entré, les gens regardaient comme ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'il va y avoir une bagarre tout d'un coup avec Stravinsky. Au contraire, nous sommes très bien entendus tout de suite. On a parlé pendant assez longtemps même. Et le lendemain, il m'a envoyé ses symphonies d'instruments avant réorchestrées en 47 comme témoin de cette rencontre chez Virgil Thompson à New York. Et c'est comme ça que je l'ai connu directement.
Pierre Boulez.
Alors, après, on a joué, en effet, Polyphonie X, après la création de Nothing qui avait lieu en 51, dans des concerts qui s'appelaient d'abord Evenings on the Roof, qui étaient des concerts en tout petit comité, et puis après qui sont appelés les Monday Evening Concerts, et qui étaient...
Los Angeles.
C'était à Los Angeles, et qui étaient organisés justement à Los Angeles par quelqu'un qui était très proche de Stravinsky, qui s'appelait Lawrence Morton, et qui est devenu un très, très bon ami à moi, très proche après, que j'ai connu très bien. Et donc, c'est Kraft qui a dirigé le Polyphonie X, mais il avait été entre-temps Stravinsky à Baden-Baden, puisqu'il Strobel, qu'il connaissait depuis avant la guerre, depuis le Berlin d'entre les deux guerres, avait invité Stravinsky à diriger, et c'est Strobel qui lui a parlé de moi pour la première fois, en tant que musicien avec les œuvres, parce que ça se passe en 51, dans l'hiver 51-52. À ce moment-là, je n'avais plus entendu parler du tout d'une relation personnelle avec Stravinsky. Et puis, je suis retourné à Los Angeles en 1957, en janvier ou février. Et là, on m'avait invité, c'est Lawrence Morton qui m'avait invité à entendre le marteau 100 mètres dirigé par Kraft. Finalement, les musiciens ont demandé est-ce que je puisse le diriger, si c'était possible. Bien sûr, j'ai accepté. Nous avons fait des séances et Stravinsky est venu à plusieurs répétitions. Il est venu au concert, bien sûr, mais il est venu à plusieurs répétitions. Et c'est là alors où j'ai commencé à le connaître, vraiment. Et j'ai été invité chez lui, du reste. Il était très, très généreux, très, comme on dit, grand seigneur. Et c'est là où vraiment j'ai connu, j'ai pu parler avec lui, j'ai pu discuter avec lui. Et chaque fois quand il est venu à Paris, après je l'ai rencontré. Donc il est venu en 57, c'est là où cette période-là où Giacometti a fait son portrait. Je l'ai invité. Alors nous avons fait un accord avec l'institution domaine musical. On a fait un accord pour l'inviter à Paris avec Rosbaud. Nous avons fait un concert où il y avait les pièces opus 6 de Webern, les pièces opus 6 de Berg, les pièces opus 16 de Schönberg et Agon de Stravinsky. Alors les trois pièces des Viennois étaient dirigées par Rosbaud et la pièce Agon était dirigée par Stravinsky. Alors ça s'était admirablement bien passé.
Il dirigeait comment Agon ?
Bien, il dirigeait sans trop de péril parce que Rosbaud avait préparé l'orchestre ferré à glace, absolument. Si bien que ça s'est bien passé. Si je peux dire. Et donc, il y avait toute la salle pleine, bien sûr, retour de Stravinsky à Paris depuis 52. C'était vraiment très, très bien accueilli, en général. Et même les Viennois qui accompagnaient Stravinsky ont été écoutés avec beaucoup d'attention et de ferveur.
Pierre Boulez évoque d'autres rencontres avec Igor Stravinsky.
58, seconde rencontre, il aimait beaucoup donc revenir à Paris. Mais là, je n'avais plus l'orchestre du Sud-Ouest donc à la disposition, mais j'avais un orchestre qui était à un moment donné pris en main par Markevitch, qui était l'orchestre Lamoureux. Mais là, c'était Kraft qui a préparé l'orchestre. C'était une œuvre un peu plus complexe qui s'appelait le Canticum Sacrum. Et là, vraiment, ça a été la catastrophe totale. Stravinsky n'a jamais plus voulu revenir diriger à Paris. Parce que effectivement, je crois qu'il en gardait un très mauvais souvenir et il avait des raisons pour ça.
Et vous en avez parlé de ça avec lui après ?
Oui, bien sûr, oui.
Comment il ressentait ça comme une...
Ah, bah, comme un échec, oui, bien sûr. Il ne pouvait pas ressentir ça comme un triomphe, certainement pas. Quoique le public l'a beaucoup applaudi, mais il n'a jamais voulu revenir saluer. Tout simplement parce qu'il a été horriblement déçu de d'une exécution qui a tourné très mal.
Justement, cette période-là, on est passé de 51 où il est encore à faire des produits cousus humains à la 18e. Et puis tout d'un coup, on voit apparaître un intérêt extrêmement méthodique pour l'écriture à 12 sons. Et on a dit donc que quand vous avez fait revenir Stravinsky au domaine en particulier, c'était un coup de pub parce qu'au fond, ça ne vous intéressait pas du tout, le Stravinsky, c'est rien. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant que c'est loin tout ça ?
Non, mais c'était très facile d'expliquer ça par un coup de pub parce qu'on trouvait que c'était le meilleur moyen de se débarrasser du problème. Or, en fait, je trouvais le cas Stravinsky très intéressant, justement que c'est un homme qui avait épuisé certainement une certaine veine, comme on parle d'une veine minière, disons dans les mines, et il cherchait autre chose, tout simplement. Alors là, je crois que l'influence de Kraft a eu du bon, certainement, parce que Kraft connaissait bien cette musique. Et je me souviens, à Los Angeles en 57, au moment où je l'ai vu pour la première fois assez longuement, nous sommes allés ensemble à une séance d'enregistrement dirigée par Kraft, où il enregistrait la sérénade de Schoenberg. Et Stravinsky est venu avec la partition, et nous avons suivi côte à côte toute la séance d'enregistrement. Il était vraiment très intéressé par ça, parce que il y avait quelque chose comme une cure de jouvence pour lui, une espèce de renouvellement de du terreau dans lequel il plongeait, et qui a été très bénéfique. C'était en 57, donc il avait 75 ans.
Amen.
Qu'est-ce que vous retenez de toute cette période sérielle de Stravinsky? Vous avez dirigé au National il y a exactement, c'était le 18 juin ou le 19 juin.
Ah oui.
63.
63, oui. Le 50e anniversaire.
And the Prayer. Oui. Et puis à part ça, quel intérêt vous avez pour cette musique de la dernière période de
Stravinsky? Je trouve que ce n'est peut-être pas toujours réussi, ce n'est pas peut-être toujours original, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a essayé de se renouveler jusqu'au bout. Parce qu'on a dit très souvent, oui, il est comme une femme qui fait une hormone thérapie, etc. Enfin, je veux dire, on a dit beaucoup de choses extrêmement désagréables et bêtes, surtout parce que c'était pas un homme de mode finalement. Ce n'est pas lui qui voulait créer un phénomène de mode, c'est les gens qui suivaient qui créaient le phénomène de mode. Alors on a cru que oui, il se mettait à la mode de la plus jeune génération et qu'il essayait d'avoir une cure de jouvence pour essayer d'être à la page, si je peux dire. Pas du tout. Je crois que ça l'intriguait beaucoup, qu'il a pensé qu'il avait raté ça pendant toute une partie de sa vie, qu'il était passé à côté de quelque chose. Et il faut bien dire que ce n'était pas Schoenberg qui l'enchantait avant tout, c'était Webern surtout qui le saisissait vraiment. Je crois qu'il n'aimait pas le côté post-romantique de Schoenberg,
et de Berg,
mais quand même Berg l'intriguait davantage. Et surtout au début, il avait une grande restriction vis-à-vis de Berg, mais plus il est allé, plus il a vu tout de même que le problème n'était pas si simple. Finalement, c'était pas son univers, mais il reconnaissait la complexité et le côté labyrinthique qu'il n'avait jamais eu lui-même. Donc il était intrigué par la musique. Je ne dis pas qu'il adhérait toujours, qu'il aimait ou qu'il adhérait, mais il était fasciné.
Et est-ce que de ces Viennois, de Debussy qu'il avait connu, d'autres gens, est-ce qu'il parlait ou il ne parlait que de sa musique et de la vôtre éventuellement?
Non, il ne parlait pas. Vous savez, on n'avait pas des conversations uniquement musicales, certainement pas. Mais on avait des conversations en général sur comment était la vie musicale, par exemple, quand il a débuté à Paris, etc. Je ne me souviens plus maintenant de tout le côté anecdotique. Mais la conversation n'était pas vraiment un foyer d'intellectualisme, non, certainement pas. En même temps, ce qui était intéressant, oui, c'est quand il parlait sur la musique. Je me souviens, nous avons parlé une fois, c'est lui qui en a parlé, pas moi du reste, sur le néoclassicisme. Et moi, je voulais pas entamer le sujet, étant donné que, bon, on savait ce que je pensais, il savait ce que je pensais. Mais il le défendait quand même. Il défendait cette période, je pense des années 20-30, quoi, parce que pour lui, c'était certainement une période importante dans sa vie. Ce que je peux comprendre, car il avait disons, fait des ballets, c'est-à-dire une musique entre guillemets anecdotique, c'est-à-dire une musique consacrée à une narration, disons, et il avait voulu se débarrasser de ce côté narration. Et c'est pourquoi il en est arrivé au néoclassicisme. Mais ce néoclassicisme n'est pas un phénomène purement stravinskien. Ce que j'ai dit après, c'est que c'est un phénomène aussi bien de Schoenberg. Schoenberg est au moins aussi néoclassique que Stravinsky, dans ses intentions en tout cas. Et il n'est pas le seul. Je veux dire, Hindemith, c'est la même chose. Honegger, c'est la même chose. Donc il y avait un courant de pensée qui était vers le néoclassicisme. Il a été seulement, probablement, le partisan le plus voyant.
Thank you.
Après l'échec de son Canticum Sacrum au domaine musical, Stravinsky n'est plus revenu diriger à Paris. Mais vous, Pierre Boulez, vous l'avez sans doute rencontré ailleurs.
Jusqu'en 67, je l'ai vu régulièrement, que soit quand il venait en Europe, soit quand j'allais aux États-Unis, spécialement quand j'allais à Los Angeles. Après, il a été vraiment pas en bonne santé du tout. Puis il y a eu un épisode Kraft où j'ai dit ce que je pensais sur ces livres soi-disant écrits par Stravinsky qui en fait étaient écrits à 90% par Kraft et il n'y avait même pas 10% de Stravinsky. Donc ça, je trouvais ça très agaçant et quand on connaissait Stravinsky, c'était visible que le vocabulaire employé n'était pas du tout celui de Stravinsky. Stravinsky n'était pas du tout une espèce de snob et intellectuel. C'était un homme au contraire très près de la réalité des choses et son vocabulaire n'était pas un vocabulaire pédant, n'était pas un vocabulaire jargonnant. Et c'est là qu'on peut faire tout de suite, si on connaissait Stravinsky, c'est là où on peut faire tout de suite la différence entre la part Kraft et la part de Stravinsky. Alors, ce qui ne veut pas dire que Stravinsky était toujours bienveillant non plus. Il avait une langue quelquefois acérée. Il était pas très content, par exemple, de la remarque de Debussy à laquelle il s'est attaché. Quand une fois Debussy a écouté L'Oiseau de Feu, et Stravinsky a demandé alors, maître ou monsieur Debussy, je sais pas comment il l'appelait, alors Debussy lui a répondu, il faut bien commencer par quelque chose. Évidemment, c'est pas une réponse à vous flatter énormément. Donc, je pense que là, il y a eu toujours des petites rivalités. Je crois que le seul musicien qui a été proche de lui, de grande stature, c'était Ravel. Ils ont eu une période, pratiquement, où ils ont essayé d'orchestrer pour Diaghilev. Il devait orchestrer Moussorgski. Et puis ça n'a pas tenu le coup. Mais par exemple, ils ont à un moment donné, en 1913, 13 et 3, pas de collaboration, mais de proximité, quand Stravinsky avait écouté le Pierrot Lunaire, et donc qu'il a écrit, en se rappelant du Pierrot Lunaire, il a écrit les trois pièces sur la lyrique japonaise, quand Ravel a écrit ses trois poèmes de Mallarmé, qui sont aussi très proches du Pierrot Lunaire.
Est-ce qu'il vous arrivait de parler avec Stravinsky de votre propre musique, puisqu'il a dit dans une déclaration qu'on cite toujours, Gertrude Stein qui disait « Moi j'aime regarder Picasso, eh bien moi j'aime écouter le marteau sans maître ». Il vous a parlé de votre musique ?
Oui, il parlait, mais il écoutait, il ne proférait pas d'avis, ni de comme un grand maître qui va d'un aîné qui parle de quelqu'un de jeune. Il n'était pas un homme conventionnel dans ce sens-là, pas du tout. C'était un homme d'une grande proximité. Moi je me souviens que, bien sûr, nous avions une différence d'âge vraiment assez grande, puisque c'était 43 ans de différence, ça fait tout de même deux générations. Et je me suis jamais senti gêné par la différence d'âge. J'ai toujours eu une grande proximité avec lui. Je me souviens très bien qu'il était très curieux des choses. Par exemple, il est passé en 57, justement, à Baden-Baden, là, quand on a préparé à Gone, et il y avait des larges plage de temps, nous avons déjeuné ou dîné ensemble. Baden-Baden étant une petite ville, hein, il n'y a pas de vie très remuante en général, surtout dans la soirée. Et là, par exemple, je lui ai fait entendre Mes Mallarmés, qui venait d'être créé. Je lui ai fait entendre ma troisième sonate. Et là, il y a même encore une photo où on nous voit discuter juste à l'entrée du studio du Sud-Ouest Funk sur justement ce que j'avais repris de Mallarmé à l'époque, c'est-à-dire une organisation formelle qui n'est pas totalement définie, mais qui se révèle par des parcours différents. Et donc ça, ça l'avait beaucoup intéressé. Des fois, vraiment, nous avons discuté sur la musique que j'étais en train de faire. Mais à ce moment-là, je ne dirigeais pas du tout encore. Donc on risquait pas de divaguer beaucoup sur l'interprétation, étant donné que moi, j'étais assis et je regardais Rosebud diriger ou bien lui diriger, tout simplement. Donc il y avait surtout sur la substance de l'œuvre, mais pas sur autre chose. Mais c'est très curieux comme il prenait les choses très rapidement, comme volait les choses. Dans ce concert que j'ai mentionné déjà, il y avait donc les pièces opus 6 de Berg. Et vous vous rappelez, au début des pièces opus 6 de Berg, il y a un mi bémol de trombone très aigu, qui est très frappant, parce que c'est un petit élément thématique très isolé, et qui se remarque tout de suite, surtout dans un registre aussi aigu, et que souvent les trombones, du reste, pour éviter l'accident, jouent sur un trombone alto, c'est-à-dire un trombone plus aigu. Et peu de temps après, il a composé, je ne sais plus quelle œuvre exactement, et j'ai retrouvé ce mi bémol, seul, unique cette fois-ci, mais repris parce que c'est un timbre et une note qu'il avait frappé beaucoup et qui l'a resservi, enfin, mais hors du contexte, bien sûr, complètement. C'était un prédateur, certainement. Et alors, je comprends mieux maintenant, disons, sa période néoclassique. Parce que, au fond, dans la grande période, ce que nous appelons la grande période de Stravinsky, il s'est inspiré beaucoup du folklore russe. Même le début du Sacre du printemps au basson a été pris, comme Scheffner l'a prouvé, et en donnant la citation, d'une mélodie lituanienne, transformée et faite complètement à sa propre image. Ensuite, dans la période des noces, il y a tout ce folklore réinventé, qui n'était pas du vrai folklore, mais ce folklore qu'il a réinventé lui-même. Et après ça, il a commencé à regarder l'histoire. Il est entré comme dans un magasin d'antiquité et il a pris des objets, n'est-ce pas, qu'il a assemblés d'une façon différente. Et une fois que le magasin a été un peu vidé et qu'il en avait assez, bon, il a regardé d'un autre côté des compositeurs de sa génération qu'il avait esquivés complètement. Il y a eu des raisons personnelles parce que Schoenberg n'a pas été non plus extrêmement gentil avec lui dans les trois satires, Der Kleine Modernski, comme on dit, le petit Modernski. Donc, il n'avait aucune attirance pour Schoenberg après avoir subi, disons, l'injure ou les sarcasmes des trois satires de Schoenberg. Et après, quand cette génération était morte, puisque Schoenberg est mort en premier, en 35, ensuite Webern en 45 et Schoenberg en 51. Donc à partir de 51, si je peux dire, la voix de sa génération était complètement libre. C'est typique de sa personnalité. Mais il y a un cas comme ceci en peinture, c'est Picasso. C'est exactement le même cas. Quand Picasso, par exemple, à la fin fait les Femmes d'Alger, c'est exactement ce même type de vol et de transformation par rapport à lui-même. Ce qui me fait le plus plaisir à diriger, c'est évidemment les trois grandes œuvres, ou les quatre grandes œuvres, c'est-à-dire les Oiseaux de feu, que j'aime énormément, parce que je trouve que c'est là où l'orchestration est le plus habile, finalement. J'ai écrit, du reste, à ce sujet, je me répète, mais je ne peux pas dire autre chose, étant donné que je le pense encore, c'est qu'il a hérité la façon d'orchestrer de Rimsky-Korsakov, seulement d'une façon beaucoup plus raffinée, mélangée aussi avec un peu de Scriabine. Il y a de l'influence de Scriabine, le poème de l'extase spécialement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il manipule cette orchestration avec une espèce de virtuosité incroyable pour un compositeur aussi jeune. Ensuite, vous avez Petrouchka, où il y a une orchestration différente, une orchestration beaucoup plus massive, qui va vers le Sacre du Printemps. Au fond, l'orchestration du Sacre du Printemps est très efficace, mais beaucoup plus brute de décoffrage que celle de l'Oiseau de Feu, par exemple. Et après, vous avez les Noces, alors qui restreint complètement le paysage du timbre au seul piano et à la percussion, et au chœur, bien sûr. Et puis après, je mets pratiquement sur le même plan encore la symphonie d'instruments à vent, qui sont très représentatifs de son évolution, c'est-à-dire aussi de l'unicité de timbre, simplement timbre des instruments à vent, que ce soit bois ou cuivre. Et après, il y a encore une curiosité, parce qu'il a toujours eu un grand sens du sonore dans la symphonie de psaume. Vous avez cette combinaison d'instruments à vent, comme des symphonies d'instruments à vent, plus des noces, c'est-à-dire avec les deux pianos et la harpe cette fois-ci. C'est-à-dire une évolution de son orchestration qui tarit un peu. Et j'oublie par là où j'ai commencé, c'est-à-dire par le rossignol. Je parle pas seulement du chant du rossignol, mais de l'opéra, le rossignol. Le chant du rossignol n'étant qu'une espèce de comprimé de l'opéra. Et dans le rossignol lui-même, on a un orchestre qui est à la fois tendance oiseau de feu et tendance sacre du printemps. Il y a les deux choses. Et il y a toujours chez Stravinsky, il y a toujours dans cette période-là, il y a toujours l'intérêt du sonore qui est absolument très aigu, très aiguisé. Et c'était un don chez lui, comme c'est un don chez Berlioz, ou comme c'est un don chez Wagner, et comme ce n'était pas le don de Schumann, par exemple. Donc il y a quelque chose qui est là, est extrêmement prenant. Alors que ce don, je trouve, sous la pression néoclassique, c'est-à-dire sous la pression de vouloir faire du classique, s'étiole. C'est toujours admirablement fait, admirablement virtuose, mais la sonorité n'est plus ce qu'elle était auparavant. Dans la période finale, je retiens Agone parce que c'est une partition très vivace, avec beaucoup d'élan rythmique, et la toute fin des Requiem Canticles, que je trouve comme une espèce de fin des noces, mais tout à fait épurée, comme un squelette, absolument. Un squelette dans la dimension aussi, c'est une toute petite dimension, la fin des noces au contraire très ample. Là, c'est une fin beaucoup plus réduite, si je peux dire, mais on a toujours cette invention sonore qui surnage parmi, disons, les décombres de son existence.
Avec cet extrait de la Symphonie des Psaumes de Stravinsky, qu'interprétait l'orchestre de la Philharmonie de Berlin sous la baguette de Pierre Boulez, s'achève le deuxième chapitre de la mémoire retrouvée de Pierre Boulez consacré à Igor Stravinsky. Ces deux émissions, enregistrées par le producteur Jean-Pierre Derrien en 2002, sont disponibles à la réécoute ou en podcast sur le site francemusique.fr ou sur l'application Radio France. Merci à Béatrice Trichet qui était à la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.